tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. Je demanderai alors, mais jusque à quand, Seigneur ? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abandon. S'il subsiste encore un dixième du peuple à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. » Rapidement, le contexte qu'on a déjà vu dans les cinq premiers chapitres, il est important pour comprendre. On est en 750 avant Jésus-Christ et il est admis par la plupart que ce texte aurait peut-être certainement été écrit avant les cinq premiers chapitres et que ce serait l'appel d'Ésaïe et que les cinq premiers chapitres servent donc à balayer un peu la situation de Juda lorsqu'Ésaïe a été appelé. On a voulu montrer que c'est dans un contexte d'échec du peuple qu'Ésaïe reçoit un appel. Qu'est-ce qu'on a déjà vu dans les chapitres avant ? On se trouve avec un peuple, Juda, qui est malade, qui est en échec complet. Dieu dénonce la rébellion du peuple, appelle celui-ci à changer et annonce son plan. Ça, c'est le chapitre 1. En jugeant son peuple, en fait, Dieu juge aussi l'ensemble du monde. Ça, c'est le chapitre 2. Au chapitre 3, le constat est sans appel. Aucun n'est capable de vivre de manière juste. Il donne une vision de la solution, une vision d'amour, la venue d'un germe, c'était le chapitre 4. Et enfin, il fait preuve d'une très grande patience envers les siens, sa vigne, au chapitre 5. Et je vous invite aujourd'hui à voir qu'est-ce que l'application de ce texte, de la sainteté de Dieu, a pour le peuple d'une part et nous. Et nous allons voir que la sainteté de Dieu, elle entraîne une condamnation. Mais elle entraîne aussi la grâce. Et enfin, elle entraîne l'obéissance. La sainteté de Dieu entraîne une condamnation. Pour qui d'abord ? Dans le texte, et c'est littéral, ben pour le peuple. Pour le peuple. Nous avons maintenant, depuis plusieurs chapitres, entendu, compris que le peuple de Dieu va être puni, déporté, tué, détruit, en conséquence de son mal, de sa désobéissance, de son péché. La sainteté de Dieu, la pureté absolue, tout comme l'obtention d'or pur, entraîne une destruction de tout ce qui est impur. L'or pur parfait est de l'or sans aucune impureté. La sainteté de Dieu ne supporte aucune impureté, d'aucune sorte. La sainteté de Dieu ne supporte pas le mal, ne supporte pas le péché. Ils ne peuvent cohabiter. Ainsi, on comprend mieux pourquoi Dieu condamne, pourquoi Dieu punit. Malgré sa patience, malgré son amour, ça n'empêche pas. Il ne prend pas plaisir à la correction, à la punition, à la colère, mais elle est nécessaire. Et en parallèle, je lisais moi dans mes méditations le prophète Jérémie. Et dans Jérémie, on trouve un verset assez incroyable. C'est Dieu qui parle à Juda avant la déportation en disant « Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Je ne peux pas. » La colère de Dieu face au péché n'est pas un plaisir, mais une nécessité. Et Dieu le rappelle encore ici, en disant à Ésaïe ce qu'il va Ce qu'il va devoir leur dire, les conséquences, leur annoncer, c'est les versets 9 à 13. Va, dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, etc., etc. Je ne vais pas vous tout relire. Et il dira, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que tout soit rasé. Et nous avons déjà vu longuement pourquoi cette condamnation. Manque d'amour, plaisir égoïste, plaisir personnel, appât du gain, débauche, tromperie, autosuffisance, sagesse humaine, haute estime de soi, mensonge, injustice, corruption, etc. Dieu avait pourtant prévenu, il avait donné sa loi pour montrer au peuple comment vivre avec lui et pour lui. Mais non, le peuple en est incapable. Mais il y a toujours un petit mais, un petit plus avec Dieu. Et à la fin de ce chapitre, laisse-t-il Ésaïe et son peuple sans espoir? Non, Dieu a toujours une bénédiction en réserve. Pour un reste, un germe, une semence sainte sortira de la souche coupée d'Israël. Et on en a déjà parlé. Une espérance, voilà un des moteurs pour son peuple à l'époque. Ceux qui restent, tout comme nous, nous avons cette espérance d'un jour retourner au pays, retrouver notre Sauveur. C'est ce qui fait la différence de la bonne nouvelle. Nous avons une espérance vivante, sûre. Ça, c'était les conséquences pour le peuple et pour moi. Et là, dans l'appel d'Ésaïe, clairement, la situation personnelle est mise en avant. Oui, il parle du peuple, c'est le fond. Mais là, clairement, il parle de la situation personnelle de chacun, d'Ésaïe d'abord et de la nôtre. Les versets 1 à 4 nous décrivent justement cette sainteté de Dieu. Fermez voir les yeux et imaginez la scène. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Vous imaginez Dieu, très élevé sur son trône. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Seulement les pans, imaginez, juste les pans du manteau remplissent le temple. Donc le temple, une construction humaine ne peut pas contenir Dieu. À peine les pans de son manteau. Dieu remplit toute la terre, tout l'univers. Et cette semaine, lundi plus précisément, dans notre lecture du Nouveau Testament, nous avons lu un texte qui confirme cela dans Actes. Où il est dit, « Cependant, le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur ? Ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure ? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela ?» Il poursuit notre imaginé toujours. Donc on a ce Dieu qui siège sur son trône très haut. Et voilà que des séraphins sont là, au-dessus, se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. Oui, les séraphins eux-mêmes, des anges, ne peuvent soutenir et tenir devant la sainteté de Dieu, puisqu'ils se cachent le visage et le corps. Ils s'adressent l'un à l'autre et ils proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ils ne peuvent pas s'adresser directement à Dieu, ils s'adressent l'un à l'autre à cause de cette sainteté. Qu'est-ce qu'ils proclament ? Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple tremblent. Imaginez le bruit au son de ses voix et le sanctuaire se remplit de fumée. Waouh ! Quelle vision ! Quelle puissance se dégage ! On imagine l'éclat, le bruit, les tremblements, la fumée. Une vision extraordinaire qu'il a eue. Incroyable. À peine il a trouvé les mots pour le dire. Devant la vue de Dieu, ou du moins de sa présence, de sa sainteté, Ésaïe a une révélation. Au verset 5, « Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Il se rend compte et confesse qu'il est impur, imparfait, pécheur, et qu'il ne peut tenir devant Dieu, devant ce Dieu trois fois saint. Qu'est-ce qu'il réalise aussi ? Eh bien que le salaire du péché, de son péché, de de sa faute, de son imperfection, c'est quoi ? C'est la mort. Je suis perdu, il dit. Malheur à moi, je suis perdu. Dans le Nouveau Testament, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. À la vue de Dieu, de sa sainteté, nous réalisons notre impureté, que nous sommes perdus. Il y en a un autre dans le Nouveau Testament qui a réalisé ça, à qui c'est arrivé. Dans Luc, justement, nous sommes après une pêche miraculeuse et Pierre s'exprime. Il voit ce miracle, Simon-Pierre se jette aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Alors vous allez me dire, Yvan, il ne s'agit pas de Dieu là, mais de Jésus. Mais que dira Jésus de lui-même dans Jean ? Et c'est Philippe qui va vers lui, qui lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Est-ce que je réalise encore quelle est ma condition humaine ? Dans ses égarements, ses limites, ses faiblesses ? Est-ce que j'ai en moi cet esprit de repentance qui me fait prendre conscience de ce que j'étais ? Est-ce que je méritais ? Et Michel nous a partagé cette pierre, ce cœur de pierre qu'il a trouvé. Il y a un autre aspect aussi que j'aimerais soulever ici. Lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, sa colère face au péché, qui est une nécessité, on considère souvent tous ces aspects sur le plan du salut. Et c'est juste, évidemment. On admet volontiers que la conséquence du péché, en général, c'est la mort spirituelle et que je dois reconnaître mon état de pécheur, de le confesser, d'accepter l'œuvre de Jésus à la croix. Mort à ma place pour être restauré, c'est ce qu'on prêche tous les dimanches. Mais qu'en est-il de ma condition humaine ? Puisque nous sommes encore dans notre corps de chair, nous sommes encore là. Qu'en est-il de ma condition humaine, de ma désobéissance en tant qu'enfant de Dieu ? Alors oui, certes, il y a le pardon. Et je peux revenir à lui grâce à Jésus. Mais est-ce que je suis prêt à accepter la correction, la discipline ? Est-ce que je suis capable de reconnaître celui qui me discipline ? Quelquefois pour me châtier, parce que j'ai désobéi, ou parce que je persiste dans une mauvaise voie, dans un mauvais choix, qui ne lui rend pas gloire, mais bien souvent à la fin pour notre croissance, pour notre bien, pour nous arrêter lorsqu'on n'écoute pas. Trop souvent, et moi le premier, je m'arrête sur les moyens dont Dieu se sert dans ce but. Soucis de santé, d'argent, contrariété, problèmes au travail, problèmes de relations, je m'entends pas avec telle et telle personne, de ma famille, de l'église, etc. Et je cherche seulement à être soulagé le plus tôt possible de cette situation. C'est pas mauvais en soi, évidemment qu'on n'a pas envie de vivre dans des situations difficiles tout le temps. Mais est-ce que je vois plus loin ? Est-ce que j'arrive à voir plus loin ? Mais pourquoi ça m'arrive ? Et est-ce que je suis capable devant ces situations de m'humilier devant la sainteté de Dieu ? Au lieu de reconnaître mon incapacité à lui obéir, au lieu de tout déposer à ses pieds, est-ce que je suis capable de m'humilier devant cette sainteté, de reconnaître, ben oui, je ne suis pas capable, non, là j'ai désobéi, et tout déposer à ses pieds, de l'écouter et de lui obéir. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout ce qui nous arrive de mal n'est pas forcément toujours lié, n'est pas forcément une conséquence de notre désobéissance. Mais je trouve qu'on a quand même bien souvent tendance à négliger cet aspect. Et je vous invite à y réfléchir, à vous placer devant lui, dire « Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ?» Oui, cette situation est là, elle est difficile, soulage-moi si tu veux, évidemment, si tu peux, mais montre-moi qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois faire. Donc non, ce n'est pas toujours une conséquence, mais par contre, ne négligeons pas cet aspect. Ça c'est ce que j'ai dit avant, je suis allé un peu, voilà, on voit pas bien en plus le rouge. Donc pour moi, est-ce que je suis capable de reconnaître celui qui me discipline? Le point 2, la sainteté de Dieu entraîne la grâce. Et on en a parlé encore ce matin dans la première partie. Dieu sait parfaitement que l'homme ne peut pas tenir face à sa sainteté. Il ne veut pas rester dans cette impossibilité. Pourquoi? Parce qu'à sa sainteté, il ajoute l'amour. L'amour divin, qui lui aussi est les trois fois saint. Trois fois amour, si vous voulez. Si nous revenons à notre texte, que se passe-t-il pour Ésaïe? Une fois qu'il a reconnu son impureté, son incapacité à tenir face à Dieu. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Vous vous rappelez de l'or impur, ce qu'il faut faire pour le purifier? Le chauffer très fort, jusqu'à ce que toutes les impuretés soient brûlées. Est-ce que c'est Ésaïe qui a besoin de faire quelque chose pour mériter de se tenir devant Dieu? Non. C'est Dieu lui-même qui pourvoit. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. La sainteté de Dieu surmontée de son amour entraîne la grâce. Oui, nous avons un Dieu qui fait grâce. Et déjà plus de 400 ans avant la venue même de Jésus, Dieu montre qu'il n'y a qu'un moyen de tenir dans sa présence, devant sa sainteté, c'est que lui-même nous fasse grâce. Que lui-même enlève nos fautes, notre péché. C'est un message révolutionnaire à l'époque. C'est comme l'image de la sainteté qu'on a vue tout à l'heure, un tremblement de terre, un bouleversement complet pour ce peuple, pour Ésaïe, de ce qu'il a pu apprendre, de ce qu'il connaissait jusqu'à présent. Depuis le début, Dieu savait que l'homme ne pouvait pas revenir à lui tout seul. Une seule manière, une seule possibilité, la grâce. Nous avons déjà vu et nous verrons encore, notamment dans le chapitre 53, que le moyen unique et pleinement suffisant pour mettre en œuvre cette grâce, évidemment, c'est Jésus. Mais là, de manière tellement imagée, avec cette braise qui vient purifier les lèvres d'Ésaïe, Dieu nous parle déjà de la grâce. Pourquoi une braise? On peut lire ça dans Lévitique. Qu'est-ce que cette braise faisait là? Elle se trouvait dans la partie avant le lieu très saint, dans le lieu saint, devant le lieu très saint. Et une fois dans l'année, cette braise, elle était sur le, ce qu'on appelle le, ah ça y est, l'autel des parfums, voilà, je cherchais le nom. Et que se passait-il avec ces braises? Une fois dans l'année, avec le grand prêtre, il avait le droit, le jour des expiations, un jour important, très important pour le grand prêtre, pour le peuple aussi, où il pouvait accéder au lieu très saint. Et accompagné de sacrifices expiatoires, le prêtre emmenait des charbons ardents de cet autel des parfums et les emmenait dans le lieu très saint, en même temps que le sang issu du sacrifice. Un symbole de l'application à sa propre personne de la vertu expiatoire des sacrifices. Évidemment que ceci annonce l'arrivée du grand prêtre par excellence, Jésus, qui est entré dans le sanctuaire et a ouvert tout grand l'accès. Par son sang, en accomplissant la purification, une fois pour toutes. Comment est-ce que ça s'est manifesté, ça, cet accès? Est-ce que vous vous rappelez? Le voile s'est déchiré, de haut en bas, ouvrant l'accès au lieu très saint. Tous ceux qui croient en lui sont unis à lui et reçoivent le vrai salut. On peut lire ça dans Hébreux 9, 10, et je vous invite à relire ces textes. Qu'est-ce qu'entraîne cette grâce pour moi? Une repentance d'abord. Une reconnaissance de mon incapacité à faire le bien et à obtenir le salut par moi-même. Elle entraîne une attitude d'humiliation. Est-ce que je réalise que face à la sainteté de Dieu, je suis incapable et que j'ai besoin de lui? J'ai besoin que lui me fasse grâce. Une attitude de repentance. La deuxième attitude, et c'est ce qu'on a fait ce matin, entre autres, et qu'on refera ce soir, à la soirée de louange, une reconnaissance, une louange permanente pour le glorifier, pour glorifier ce Dieu parce qu'il est trois fois saint, parce qu'il m'aime et parce qu'il me fait grâce. Voilà deux attitudes que nous devrions clairement voir en chacun d'entre nous. Est-ce que les personnes qui viennent dans cette église, que nous côtoyons tous les jours, voient en nous une attitude de repentance et une attitude de louange? Et enfin, le troisième aspect, la sainteté de Dieu, entraîne l'obéissance. Et si on continue notre texte, Dieu attend quelque chose maintenant. Ésaïe a reconnu qu'il était incapable. Dieu l'a purifié avec cette braise. Et maintenant, il y a une attente. Le verset 8. Et j'entends, dit alors le Seigneur, qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Dieu attend des serviteurs, des disciples, qui vont aller et marcher pour lui. La réponse d'Ésaïe, directe, franche, sans compromis, « Je suis prêt, envoie-moi. » D'autres ont suivi cet exemple en répondant à cet appel. Et cette semaine, dans notre lecture suivie collective dans Actes encore, on en a répété avant, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Ils allaient. Même sous la persécution, ils continuent d'aller proclamer le message de la bonne nouvelle. Qu'en est-il de moi? Est-ce que comme Ésaïe, je réponds de suite positivement face à cette question de Dieu? Et maintenant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Plusieurs attitudes possibles. Je réponds pas. Ce qui peut venir de deux choses. Soit j'entends pas, soit je fais semblant de pas entendre. Je réponds, je suis prêt, mais j'écoute pas où aller. Ou je réponds, envoie-moi, et je pars où bon me semble, sans être prêt. Ou alors, je réponds, comme Ésaïe, envoie-moi. Je suis prêt, pardon, envoie-moi. Et toi, que réponds-tu à la question de Dieu? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? En tout cas, pour pouvoir répondre à ces questions de Dieu, cela suppose deux choses. Que j'écoute, que j'obéisse. L'écoute. L'écoute. Ces derniers temps, et je l'ai déjà partagé en privé à quelques-uns d'entre vous, je suis en train d'apprendre beaucoup sur l'écoute. Je me suis rendu compte que dans ma vie d'enfant de Dieu, je passais beaucoup de temps à parler, à demander, à prier, à lire, à chanter, à le louer, à faire plein de choses, même très spirituelles, hein, mais très très peu à écouter. Que de temps et d'énergie j'ai pu perdre dans des directions qui n'étaient pas bonnes. Parce que j'écoutais pas ce qu'il me disait. Alors de temps en temps, ah, t'écoutes pas, ah, je t'arrête, allez, tu vas ailleurs. Professionnellement, j'ai vécu ça 3 fois. Et pourtant, la Bible nous parle tellement d'écouter. Le mot « shama » en hébreu, qui se traduit par « écouter », se trouve 1100 fois dans la Bible. Entre la Genèse et l'Apocalypse. Dans Deutéronome, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, est un. Dans Samuel, très connu, parle, car ton serviteur, écoute. Luc, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Apocalypse, que celui qui a des oreilles, écoute. Écouter, c'est un acte volontaire. Et actuellement, c'est tellement compliqué de faire silence dans son esprit pour écouter. Notre temps est bruyant d'une infinité de messages. Publicité, discours politiques, la musique sont partout, pour le meilleur, pour le pire aussi. Sans parler des nuisances sonores de la ville, on est peut-être à côté d'un aéroport, d'une gare, des voisins qui font du bruit, des appartements qui résonnent à longueur de journée, de flots de paroles, de musique, de radio, de télévision. Nos ados, eux, passent l'essentiel de leur temps avec des écouteurs. Même des fois quand ils dorment. Nathan, je l'ai déjà chopé, il dormait, il y avait tout sur... Il était en train de... Mais c'est vrai, c'est pas vrai ce que je dis. Alors faire le silence, écouter, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. Que je vous encourage vivement à relever. Car notre vie avec Dieu, elle sera tellement changée lorsqu'on écoute. Personnellement, je prends du temps, un temps fixé dans la journée, pendant lequel je me place devant Dieu. Et je lui demande de me montrer comment prier, comment agir, quoi faire, quoi dire dans chaque situation de ma journée. Il n'y a pas des choses inutiles, des choses où on se dit « Oh, mais là, c'est pas la peine ». Si, si on veut être des disciples obéissants, il faut savoir écouter. Et le fait de faire cette demande me place automatiquement dans une attitude plus attentive, plus à l'écoute, parce que j'attends clairement des réponses. Si je demande bah, « Dis-moi comment prier dans telle et telle situation bah, », bah, je vais peut-être l'écouter, peut-être un peu plus. Et lorsque l'Esprit révèle les choses, lorsqu'il répond par l'Esprit, eh bien c'est incroyable. C'est immédiat, on le remarque tout de suite. Vous avez une paix, une joie qui vous envahit, et vous savez, c'est ça, c'est ça. Je vous invite vraiment à faire ces expériences, à vous placer, à trouver ces temps d'écoute. Vraiment, je vous le dis, parce qu'on connaît tellement de choses. On est, voilà, il y a plein de choses qu'on ne vous apprend pas quand on vient ici le matin, devant la chair. Mais apprenez, apprenez à écouter. Et la deuxième chose, c'est l'obéissance. Il est certain qu'écouter ne sert à rien si derrière, j'obéis pas. C'est comme rouler en voiture, il y a un gros obstacle devant vous, mais vous ne tournez pas le volant. On va droit dedans. Et ça m'est déjà aussi arrivé. Peut-être à vous aussi. Donc l'écoute sans l'obéissance ne sert pas à grand-chose. Et là aussi, beaucoup de personnes aiment bien parler, écouter, palabrer, mais sans jamais rien mettre en pratique. Ce sont des discussions inutiles, une perte de temps. Après donc l'acte volontaire d'écouter, je me trouve face à un deuxième acte volontaire de ma part, l'obéissance. Là aussi, un grand nombre de versets qui parlent d'obéir. Vous les chercherez, vous prenez une concordance, vous tapez obéir, obéissance. Je suis juste deux proverbes, dans Proverbe 4, un dans l'ancien, un dans le nouveau. Proverbe 4, obéis à mes commandements et tu vivras. Jean 14, si quelqu'un m'aime, il obéit à ce que j'ai dit. C'est Jésus qui parle. Nous sommes tellement prompts à entendre, savoir, mais finalement quand même faire comme on veut, selon nos propres pensées, nos propres désirs. Oui, obéir n'est pas forcément agréable sur le coup, ça coûte même des fois. Mais qui mieux que notre Créateur sait ce qui est bon pour nous? Cela impliquera certainement des choix qu'on n'aurait peut-être pas fait, humainement parlant, qu'on n'aurait pas imaginé, avec des conséquences des fois dures, douloureuses, à contre-courant de tout ce que le monde il nous montre, nous dit. Je vais devoir faire des choix dans les personnes aussi que je fréquente. Je dois peut-être revoir mes ambitions à la baisse, que ce soit professionnelle, familiale, j'en sais rien. Tout dépend où il vous appelle. Cela demande donc de tenir ferme, d'être affermi. Encore une fois, et toujours dans notre texte, on se rend compte que Dieu ne laisse pas Ésaïe seul dans son choix d'écouter et obéir, mais il va lui-même lui dicter ce qu'il devra dire. Au verset 9, « Va et dis à ce peuple » et il lui dit. Voilà, tu vas lui dire ça. Il ne lui dit pas, ok, bah c'est bon, t'as répondu, maintenant débrouille-toi. Non, va et dis à ce peuple. Et il lui dit, voilà, tu vas dire ça, 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 tout ce qu'on a lu. Oui, Dieu nous demande de l'écouter, de lui obéir, mais il nous donne aussi les moyens d'y arriver. C'est quand même dingue. Qu'est-ce qu'on attend? Quelle preuve de son amour et de sa grâce? Et toujours dans la lecture suivie de cette semaine, dans Thessaloniciens, celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Amen. En conclusion, je rappelle simplement que Dieu est trois fois saint. Dieu est trois fois saint. La sainteté de Dieu entraîne une condamnation, oui, du peuple de Dieu, on l'a vu, de moi-même aussi. Et la question que je vous ai posée, suis-je capable de reconnaître celui qui me discipline ? La colère de Dieu face au péché n'est pas un plaisir, sachez qu'il ne prend pas plaisir à ça, mais c'est une nécessité. Et si des fois il est obligé de vous dire, mais je ne veux pas te faire ça, mais je suis obligé, parce que je suis saint, et toi tu m'as désobéi. sachant le reconnaître. La sainteté de Dieu entraîne la grâce face à sa sainteté, c'est Dieu lui-même qui nous fait grâce. Cette grâce entraîne en moi quoi ? Une repentance, une attitude de repentance, d'humiliation et une attitude de reconnaissance. Et enfin, la sainteté de Dieu entraîne l'obéissance. Est-ce que je suis prêt à relever le défi du silence et de l'écoute ? Est-ce que je suis prêt à obéir ? Que le Seigneur nous guide, nous accompagne sur le chemin qui mène à lui, cette sanctification, et que nous soyons toujours plus à l'écoute de ce à quoi il veut que nous obéissions.